Séoul au jour le jour. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 29 juillet à Séoul et la Corée du Sud est en pleine vague de chaleur estivale. Avez-vous déjà pris vos vacances ou êtes-vous en train de les planifier ? Le week-end dernier, à l'approche du pic de la saison, les plages, les parcs aquatiques et les festivals d'été à travers le pays ont été pris d'assaut par les vacanciers. Mais les accidents liés aux activités nautiques surviennent pourtant souvent de manière imprévisible. Dans ces moments de détente tant attendus, il convient donc de rester vigilant. C'est dans cette ambiance ensoleillée que s'ouvre notre édition de ce mardi. Le lundi 21 juillet, le gouvernement sud-coréen a lancé la distribution des bons de consommation, un dispositif destiné à relancer la demande intérieure face au ralentissement économique. Cette initiative a redonné espoir à de nombreux commerçants en quête d'un nouveau souffle dans une conjoncture morose. Dans les zones commerçantes, plusieurs clients ont voulu savoir s'ils pouvaient payer avec ce nouveau moyen, preuve que la mesure suscite déjà un certain écho. Les paiements se font encore rares, les aides venant tout juste d'être versées. Mais sur le terrain, l'ambiance commence doucement à évoluer. L'argent commence à circuler. Ça peut faire une petite différence, a confié un vendeur à Séoul. D'après ce qu'a annoncé hier le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 39 673 421 personnes, soit 78,4% de l'ensemble des bénéficiaires potentiels, avaient fait leur demande au cours de la première semaine de la première phase. Le montant total versé ces 7 derniers jours s'élève à 7 120 milliards de won, soit environ 4,4 milliards d'euros. À Gangnam, un gérant d'un café indépendant a témoigné. Des clients m'ont demandé s'ils pouvaient régler à l'avance en utilisant ce coupon, puisqu'on propose 10% de réduction dans ce cas. Ce n'est pas encore passé à l'acte, mais nos habitués commencent à se montrer curieux. Devant un petit centre commercial situé au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel dans le district de Chong, un marchand de fruits et légumes a raconté qu'un client était venu acheter pour 10 000 won d'œufs et de légumes. Ce n'est pas encore l'affluence, mais si les dépenses reprennent un peu, ça ne peut qu'aider, a-t-il commenté. Même les commerces où les clients dépensent quand ils ont un peu de marge, comme les opticiens ou les fleuristes, espèrent profiter de cette dynamique. Un opticien a précisé avoir reçu un appel d'une personne souhaitant utiliser un coupon pour s'offrir une nouvelle paire de lunettes. Ce matin, quelqu'un est venu acheter pour 110 000 won de lentilles. Si les bénéficiaires reçoivent ces bons, ils pourraient enfin changer leur monture, ce qu'ils remettaient à plus tard depuis un moment, a-t-il expliqué. Le gouvernement prévoit de recueillir les demandes pour cette première phase de distribution jusqu'au 12 septembre à 18h, que ce soit en ligne ou sur place. Les bons de consommation sont versés sous différentes formes, carte de crédit ou de débit, carte prépayée ou chèque cadeau virtuel ou physique. Ces coupons sont utilisables jusque fin novembre dans les commerces dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 3 milliards de won, soit l'équivalent de 1,85 million d'euros. La production d'oignons a fortement chuté à cause des inondations. Les prix de l'ail et des poireaux sont déjà difficiles à supporter. Lâché le 21 juillet à Yongsan, un patron d'un Kisashiktang, un type de restaurant sud-coréen fréquenté surtout par les chauffeurs, connu pour ses plats généreux et bon marché. Quelques personnes prenaient un déjeuner tardif, mais la plupart des tables restaient vides. En période d'inflation, ces établissements sont souvent cités comme une solution abordable pour un repas rapide et nourrissant. Mais cette année, la tendance est inversée. La flambée du coût des matières premières en a contraint la majorité à modifier leur menu et à coller de nouvelles étiquettes de prix. Kim, 51 ans, propriétaire depuis 25 ans de Wawon Kisashiktang, a confié avoir augmenté ses tarifs ce mois-ci. Aucun ingrédient n'échappe à la hausse. Même le riz est devenu plus cher. L'oignon qu'on utilise dans tous les plats a explosé. Le commerce marche mal, alors j'ai commencé à faire des livraisons depuis 3 ans. Certaines enseignes ont dû réduire ou adapter la variété des banchan, ces petits plats d'accompagnement servis avec le riz. Kwak, 50 ans, gérant d'un autre restaurant, a expliqué « À ce niveau de prix, il n'y a pas moyen de proposer autant de banchan qu'avant. On en préparait 10, on n'en sert plus que 8 désormais. » Un employé d'un établissement similaire a lui aussi déploré la situation. Les légumes sont devenus inabordables. Aujourd'hui, on propose de la ciboule chinoise, mais les épinards ou la laitue, ce n'était même plus envisageable. L'envolée des coûts, elle, se fait sentir jusque dans l'assiette des clients. Chang, 77 ans, chauffeur de taxi depuis 3 décennies, a déclaré « Avant, le tarif minimum d'un trajet en taxi suffisait pour un repas complet. Aujourd'hui, ce n'est tout simplement plus possible. Depuis un mois, les additions ont augmenté de 1000, parfois même 2000 won. » Selon la Korea Agro Fisheries and Food Trade Corporation, le 21 juillet, le coût au détail des épinards atteignait 1969 won pour 100 grammes, soit une hausse de 119,27% par rapport au mois précédent. Et le prix d'un chou chinois a également bondi de 44,71%, atteignant 5240 won. Et cette tendance devrait se poursuivre, les épisodes de forte pluie laissant place à une vague de chaleur. Yun Sang-soon, 59 ans, propriétaire d'un restaurant spécialisé dans les jjajangmyeon, ses célèbres nouilles aux haricots noirs, a témoigné « Je m'approvisionne au marché de Gyeongdong le week-end, mais il n'y avait pas assez d'oignons la semaine dernière. J'ai dû en acheter moins que nécessaire. On ne peut même pas répercuter ces hausses sur le tarif des menus. C'est un vrai dilemme. » D'après Im Jong-bin, professeur d'économie agricole à l'Université nationale de Séoul, la situation est prévisible. Il suffit parfois d'une légère baisse des volumes de production pour que les prix s'envolent. Du côté des producteurs, semer plutôt peut être une piste. Et pour les consommateurs, envisager des produits de substitution, c'est sans doute une des clés. Écoutons à présent Yang Hua BRDG de Zayanti.
Vous avez aimé ? Vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce mardi 29 juillet 2025 vous est présentée par Maxime Lalot. Ces derniers temps, une nouvelle tendance baptisée Korea Grow Up fait sensation sur les réseaux sociaux. Il s'agit de vidéos courtes montrant le changement d'apparence de personnes ayant séjourné en Corée, que ce soit pour un court voyage, une expatriation ou un séjour prolongé. Ces contenus, souvent publiés par des étrangers ayant vécu cette expérience, suscitent un fort écho auprès d'un public international passionné par la culture coréenne. C'est le cas d'un Australien installé au pays du matin clair. Le 18 juillet, il a publié sur ses comptes TikTok et YouTube, sous le nom de TV Nitty, une courte vidéo légendée en anglais « What's in Korean Water ?», littéralement « Qu'y a-t-il dans l'eau coréenne ?». De photos juxtaposées révèlent une transformation saisissante de son apparence entre l'avant et l'après, après 2 années passées dans ce pays. La publication a rapidement fait le buzz, totalisant plus de 3,9 millions de vues en seulement 10 jours sur les deux plateformes. Sous la vidéo, les réactions affluent du monde entier. « Il est passé d'Ajoshi à Oppa. Il faut que je parte là-bas tout de suite. » Envoyons tous les hommes dans ce pays. On dirait qu'il a rajeuni de 15 ans. Ou encore, quelle est sa routine de soins et qui est son coiffeur ? D'autres internautes analysent cette évolution d'un œil plus critique. C'est la pression sociale qui pousse les gens à surveiller leur poids. Vivre dans une société où l'apparence compte autant change forcément les habitudes. En somme, vivre en Corée ne se résume pas à un simple glow-up, c'est aussi découvrir une culture où l'image de soi occupe une place centrale et où le mode de vie, du soin de la peau à l'alimentation, façonne peu à peu le quotidien. Et ce phénomène ne s'arrête pas à une seule séquence devenue virale, il existe aujourd'hui une multitude de contenus similaires qui cumulent des centaines de milliers, voire des millions de vues. Certes, rien de tout cela ne repose sur des bases scientifiques, mais ces formats donnent tout de même à voir une idée qui gagne du terrain, séjourner dans le pays améliorer l'apparence. Une impression qui circule avec légèreté, mais pas tout à fait sans fond. Dans ce climat, il n'est pas étonnant que le secteur de la K-beauty continue de briller. Selon l'Agence coréenne de sécurité des aliments et des médicaments, les exportations de produits de beauté du pays ont atteint un nouveau record historique au premier semestre 2025, 5,5 milliards de dollars, en hausse de 14,8% par rapport à l'an dernier. Les États-Unis ont doublé leurs importations en 5 ans. Quant à la Pologne, sa progression rapide depuis l'an dernier lui permet de figurer pour la première fois parmi les 10 premières destinations. « En pleine saison des vacances, les aires d'autoroute en Corée du Sud se transforment en véritable halte gourmande. Vous prenez la route cet été? Alors gardez l'œil ouvert. Depuis le 21 juillet, une carte spéciale est distribuée dans les aires de repos de la région de Séoul et de Gyeonggi. Elle vous indique 20 arrêts gourmands à ne pas manquer, avec leurs plats signature, des snacks et des coins sapins à découvrir. Le tout offert par la Korea Expressway Corporation pour rendre votre trajet encore plus savoureux. Des QR codes sont même intégrés pour accéder à plus d'informations en ligne via votre smartphone. Ce ne sont pas de simples plats, ce sont des escales pleines de saveurs. À l'aire de repos de Seoul Mannam, la soupe de bœuf Makjukkori réchauffe les voyageurs, tandis qu'à celle de Yeoju, le Seolokdang aux champignons locaux séduit les amateurs de sensations épicées. Du côté de Guli, le porc noir sauté aux champignons fait saliver, et à Yongin, le kalbitang à l'ormeau et aux herbes apporte une touche raffinée. Pour les envies sucrées ou les petites faims, chaque point d'arrêt a sa spécialité. Hot dogori à Icheon, banh mi à Yeoju, tiramisu à Choin ou encore demi-poulet frit à Namhankang. Mais le plaisir ne s'arrête pas à l'assiette. La carte recense aussi des espaces pensés pour tous les types de visiteurs. Sur l'aire de Yongin, même les chiens ont leur terrain de jeu. À Mahjong, les maîtres peuvent siroter un café aux côtés de leurs compagnons. Pour flâner ou prendre quelques photos souvenirs, rendez-vous au parc Baudogi à Hansang ou au parc Vintage 7080 à Icheon-nami. Avec cette carte, nous voulions que les vacanciers puissent vivre des pauses sympas pendant leur trajet, a confié un représentant de la direction régionale Seoul-Gyeonggi de la Korea Expressway Corporation. Il a ajouté que l'organisme allait continuer à proposer des idées originales pour rendre les voyages sur l'autoroute encore plus agréables. Les vacances d'été chez les grands-parents permettent de renforcer les liens familiaux, de découvrir les traditions ancestrales et puis de créer des souvenirs inoubliables. Et si les grands-parents vivaient en Corée du Sud? Avant de retrouver Christelle Drouard pour carte postale, que diriez-vous d'écouter un récit de vacances de deux sœurs genevoises au pays du matin clair? Cet entretien a été réalisé par Ohayang.
Bonjour mesdemoiselles et merci d'être venues nous voir à la KBS. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs?
Alors bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, j'en suis très très honorée. Je m'appelle Ji-woo Park, je suis coréenne et j'habite en Suisse à Genève et... je suis très contente d'être ici, voilà.
Bonjour, je m'appelle Ji-woo Park, je suis la petite sœur de Ji-woo Park. Et oui, merci pour cette opportunité.
Vous êtes donc deux jeunes filles nées de parents coréens qui vivent actuellement en Suisse. Est-ce que vous revenez régulièrement en Corée?
Alors oui, on a la chance de pouvoir revenir assez régulièrement en Corée depuis petite. En général, on vient tous les deux ans. Seulement en été, parce que ce sont les vacances les plus longues, et c'est ce qu'on fait.
Alors, comment vous êtes sentie en revenant cet été au pays de vos parents? Et qu'avez-vous fait en premier en arrivant à Séoul?
Très très contente, on se sent chez soi, mais d'un côté c'est assez différent parce qu'on n'a pas grandi non plus ici. Mais nous sommes très contentes parce qu'on a toute la famille ici qui vit ici, et la première chose qu'on a faite, littéralement, c'est manger.
Qu'est-ce que vous avez mangé dedans?
Kalguksu devant.
Kalguksu.
C'était super bon et très 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 rapide. On a commandé, c'est venu en moins de 30 secondes, je dirais, et c'était extrêmement bon. Et ensuite, le soir, directement, on a vu notre famille du côté de notre papa. Et là, en ce moment, on dort chez notre grand-mère maternelle, c'est super.
Est-ce que vos amis suisses savent que vous êtes originaire de la Corée? Connaissent-ils le pays, la K-pop, la K-food?
Alors, complètement, oui, ils savent que je suis coréenne du Sud. Quand j'étais petite, ils me demandaient pas mal si j'étais du Nord ou du Sud, c'était très marrant. Alors, s'ils connaissent vraiment la culture, je dirais qu'ils connaissent quand même le kimchi, parce que ces dernières années, en grandissant en Suisse, j'ai personnellement senti la différence, c'est-à-dire des personnes autour de moi qui demandent si je suis japonaise ou chinoise. Et là, depuis plusieurs années, la Corée s'est fait pas mal entendre. Donc, ils connaissent un tout petit peu la culture en soi. K-pop, ils connaissent pas trop. K-food, ils connaissent les ramyeon,
mais les nouilles instantanées.
Ouais, c'est ça, mais c'est pas vraiment le. Je trouve les plats les plus
authentiques.
Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment leur faire découvrir d'autres plats et la culture en général.
Mais ça, est-ce que vous avez déjà fait venir des amis à la maison
en Corée?
En Suisse.
Ah, en Suisse. Alors justement, leur maman est traiteur. C'est extrêmement bon parce que je peux le confirmer. Mes amis, à mon anniversaire, ma mère. Elle s'est vraiment donné de la peine pour leur faire découvrir aussi la nourriture. Et ils ont adoré, ils ont tout fini. C'était extrêmement bon. Ils ont mangé bulgogi, aussi du poulet frit avec du japchae. Et là, ils voulaient encore plus, je me rappelle. Mais oui, ça, c'était super.
Oui, de mon côté, j'ai des certaines amies qui écoutent la K-pop et qui s'intéressent beaucoup à la Corée. Mais elles sont jamais allées. Ou du moins une, elle est allée, mais pas pour rester en Corée longtemps. Donc c'était quand elle était petite. Donc voilà. Ouais, mais sinon, dans mon entourage, sauf certaines amies, ils s'intéressent pas tellement à la K-pop. Par contre, la K-beauty a beaucoup de succès, c'est ainsi.
Alors, qu'est-ce que vous ramenez dans vos bagages?
Ce qu'on ramène dans nos bagages, en général, ce sont des vêtements. Parce qu'ici, c'est vrai que c'est moins cher. Ils sont beaucoup plus adaptés selon nos goûts. Esthétiquement, ça nous plaît plus. Et aussi, c'est vrai que le skincare coréen, il y a beaucoup, beaucoup de touristes qui viennent exprès pour ça. Sur les réseaux, c'est extrêmement diffusé. Et on ramène pas mal de cadeaux pour nos amis aussi.
Comme par exemple
L'année passée, par exemple, moi, j'ai pris des épingles très, très jolies pour mes amis. Sinon, j'aime bien acheter ce qui est traditionnel, des petites décorations qui prennent pas trop de place, juste en guise de souvenir, parce que je me dis qu'ils peuvent venir aussi ici, comme ça, ça les attire.
Est-ce qu'il y a des amis suisses qui sont déjà venus en Corée?
Alors, non, jamais.
Ah.
Et j'aimerais beaucoup leur faire découvrir tout ça, ça serait génial.
Et Chiou, qu'est-ce que vous offrez à vos amis?
Alors, les années d'avant, j'achetais des petits souvenirs, mais cette année, je leur ai demandé ce qu'elles voulaient. Comme ça, c'était plus sûr.
Alors, qu'est-ce qui était sur la wish list?
Du maquillage de Olive Young.
Ah. Alors, Tio, vous venez de terminer le lycée. Et à ma connaissance, vous souhaitez poursuivre vos études en art.
Alors, complètement. J'ai développé un intérêt particulier depuis petite dans le monde, ou plutôt le grand univers de l'art, qui a tellement, tellement de planètes, je dirais. Et durant le lycée, ça s'est de plus en plus renforcé, ce lien, grâce aux profs, aux super profs que j'ai eus, et à un super entourage. C'était très, très libre, et surtout, j'adore le fait que ça soit très, très ouvert. Je pense que c'est tout et rien à la fois, sans minimiser bien sûr, mais c'est que j'aimerais vraiment que ça fasse partie plus tard dans ma vie un petit peu, parce que c'est vraiment un besoin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout les messages que l'art est capable de véhiculer à travers des messages complètement implicites et juste à travers une image ou un visuel, qu'il soit tridimensionnel ou bidimensionnel, en mouvement ou pas, abstrait ou figuratif, je trouve ça juste incroyable et j'ai hâte de pouvoir davantage découvrir ce monde-là.
Alors, dans quel domaine de l'art vous vous intéressez plus particulièrement?
Alors, durant le lycée, c'était principalement l'art visuel.
Visuel.
Et ces derniers temps, j'essaie particulièrement de développer un peu le montage avec mon papa.
Qui est réalisateur.
Oui.
Est-ce qu'il y a un artiste que vous aimez particulièrement, qui est un modèle pour vous?
Franchement, philosophiquement parlant, je trouve que Andy Goldsworthy, c'est un artiste que j'adore. C'est donc un artiste du land art qui travaille avec la nature pour véhiculer des... En fait, c'est pour saisir l'instant, principalement. Et ça, je trouve très important aujourd'hui.
Et vous, Chiou, vous allez au collège, au lycée?
Je vais au lycée.
Au lycée. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire lorsque vous serez plus grande?
Contrairement à ma sœur, je pense pas que je vais me lancer dans quelque chose dans le monde de l'art. C'est pas ce qui me passionne le plus, mais je pense que je vais me diriger vers quelque chose de scientifique.
Alors merci mademoiselle pour cet entretien et nous vous souhaitons un bon retour en Suisse.
Recevoir une carte postale exotique de la part d'un ami, ça fait plaisir. Et si elle était sonore ? Mode, exposition, festival, découvrez chaque mardi avec Christelle Drouard les dernières tendances en Corée.
Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un lieu empreint de sérénité, un coin de calme et de spiritualité en plein cœur de Séoul. Il y a des lieux qui semblent suspendus dans le temps, des refuges de silence en pleine ville, c'est le cas du temple Bogunsa, un joyau spirituel posé au milieu du quartier d'affaires de Gangnam, juste en face du gigantesque Coex Mall. Là où on s'attend à trouver des gratte-ciels, des congrès internationaux, des enseignes de luxe, on découvre aussi un lieu de calme absolu. Un temple bouddhiste fondé au 8e siècle, en 794 exactement, à l'époque de la dynastie Shilla. Dès qu'on quitte le trottoir des rues modernes pour franchir les premières marches du temple, le tumulte de la ville s'efface. On entend le son mat des moktak, les cloches de bois des moines ou le bruissement des feuilles dans les pins. En à peine quelques pas, on est ailleurs. Le contraste est saisissant. Autour de vous, les hautes tours du vert du Coex et du Trade Tower, mais devant vous, des toits courbés, des lanternes colorées et un jardin soigneusement entretenu. Le passé et le présent se regardent en face. Le cœur du temple, c'est le Daejeon, la grande salle du Bouddha, un bâtiment en bois magnifique dont les poutres peintes de motifs floraux évoquent un monde à la fois simple et raffiné. À l'intérieur, trois immenses statues de Bouddha, dorées, vous accueillent dans un silence profond presque sacré. Mais ce qui attire les regards de loin, c'est surtout la statue monumentale du Bouddha debout, haute de 23 mètres. Dressée à flanc de colline, elle semble observer la ville avec sérénité. Elle incarne la compassion et veille sur le tumulte de Gangnam, comme une présence bienveillante au-dessus du monde moderne. Autour du temple, on peut suivre un petit sentier, bordé de pierres gravées de sutras, découvrir des salles de pierres plus discrètes, ou s'arrêter devant des pavillons d'études, où l'on enseigne encore aujourd'hui la philosophie bouddhiste. Et même si le lieu est très fréquenté, il reste toujours paisible, jamais envahi. Ce qui rend Bogunsa si particulier, c'est aussi sa dimension vivante. Ce n'est pas un musée du bouddhisme, c'est un lieu en activité. Les moines y vivent, y prient, y enseignent. Des cérémonies y sont organisées toute l'année, notamment à l'occasion du festival des lanternes de Yeondeunghui, en mai, quand tout le temple se couvre de milliers de lanternes colorées. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, Bogunsa propose aussi un programme de temple stay. On peut y passer une journée ou une nuit, s'initier à la méditation, à la fabrication de lanternes ou simplement vivre quelques heures dans le rythme lent de la vie monastique. Bogunsa, c'est un lieu de contraste, de rencontre et de paix. Il incarne à lui seul ce que Séoul sait si bien faire, mêler l'ancien et le nouveau sans les opposer. Et il nous rappelle que même au cœur du quartier le plus effervescent de la capitale, la contemplation et le silence sont encore possibles.
Ainsi se termine votre émission Séoul au jour le jour. C'était Ha Jin-ho à la rédaction, Maxime Lalo au micro et Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de KBS World Radio.